Salut, moi c'est Niki.
Moi c'est Bi.
Bienvenue dans le podcast Madame Attrape ton cœur.
Pour cette série Partir mais à quel prix, nous vous invitons à découvrir les témoignages de personnes ayant quitté leur pays pour poursuivre leurs études. Elles partagent avec nous la préparation du départ, le choc de l'arrivée sur le plan social, administratif et culturel, l'adaptation à un nouvel environnement, les difficultés rencontrées, ainsi que les conseils et recommandations si c'était à refaire.
L'être humain cherche l'endroit où il peut survivre. C'est un droit pour les gens d'aller survivre ailleurs. Ils vont venir avec leur bagage identitaire, du moins ce qu'il en reste, parce que les gens ne sont pas des coquilles vides. Ils s'adaptent en restant un peu eux-mêmes, parce que c'est tout ce qu'il leur reste, ce petit bout d'identité. Ce texte est une interview de Leonora Miano, que nous trouvons pertinent pour les récits qui vont suivre. Bonne écoute.
Hola. Bon.
Hola, moi je suis partie étudier en Turquie. En 2011, j'ai obtenu une bourse d'études du ministère de l'éducation de Guinée-Bissau. Ils étaient en charge de tout prendre en charge, donc le logement, les cours de turc sur place, c'était en fait la responsabilité. Quand je suis arrivée, donc les camarades qui étaient déjà arrivés sur place, en fait à l'époque il y avait l'association des étudiants bissau-guinéens qui existe toujours. En fait, ils venaient nous récupérer en fait à l'aéroport, nous accompagner, nous aider aussi à faire nos démarches administratives, nous montrer les dortoirs, les bâtiments de cours de langue. Donc les étudiants bissau-guinéens membres de ce comité, cette association, quand ils savaient qu'un étudiant bissau-guinéen arrivait, ils organisaient un comité d'accueil en fait et l'accompagnaient pour son arrivée. Donc ils nous accompagnent. Moi, je suis allée dans le nord de la Turquie. En fait, j'avais un ami qui était déjà dans la ville avant d'arriver. J'avais déjà discuté avec lui avant d'arriver. En fait, ils étaient deux bissau-guinéens dans la ville. Donc quand je suis arrivée, ils sont venus me chercher. Ils nous ont aidés dans les démarches administratives et tout ce qui pouvait nous aider. Grâce à Dieu, j'ai eu des facilités sur ces aspects-là, donc la gestion administrative et trouver les dortoirs et autres. Ils nous emmenaient aux cours de langue, vraiment, c'était vraiment eux qui nous ont aidés. Ce qui m'a le plus surpris au début, j'ai une histoire que j'aime beaucoup raconter et que je trouve qui est très jolie. J'estime que j'ai eu beaucoup de chance, notamment avec les personnes avec qui j'étais dans le dortoir. Les dortoirs, c'était 6 lits, donc 6 personnes, et qu'avec des Turcs. Je me souviens quand la secrétaire en charge des dortoirs m'a ramenée dans ma chambre. Quand je suis arrivée, il y a une des filles qui a couru et monté dans son lit et a crié. Waouh ! Ça m'a choquée, je suis restée sur place. Et je l'ai regardée, je me suis demandé, est-ce qu'elle est raciste? Il y a quelque chose qui va pas dans sa tête? Est-ce qu'elle est folle? Après, la fille m'a dit, en fait, elle a toujours voulu avoir une étrangère dans sa chambre, donc ça l'a vraiment choquée, surprise, et d'où sa réaction. La première année, c'était difficile, et les filles du dortoir m'ont vraiment beaucoup aidée, elles m'ont soutenue. En termes de langue, elles écrivaient donc bonjour, bon après-midi, bon appétit, bonne nuit, hola, bon salut, comment tu vas. Elles écrivaient sur des post-it qu'elles mettaient sur mon armoire, elles essayaient de parler avec moi. Elles m'emmenaient dans des endroits différents, donc au supermarché, au cinéma, pour que je puisse interagir avec les gens et voir d'autres choses. Même au supermarché, elles faisaient en sorte que je parle. Vraiment que je me débrouille. La première année, elle fut très très difficile pour moi. Je sais pas, en Afrique, on a un peu normalisé d'envoyer les enfants étudier à l'étranger. Ici en Guinée-Bissau, mais dans d'autres pays africains, en fait, on étudie en se disant après on va attendre d'avoir la bourse. Ou bien quand je vais passer la terminale, savoir se poser la question dans quel pays je vais partir étudier. Que ce soit une bourse privée ou publique, hein. Et je pense que nos parents, ils oublient une chose, c'est est-ce qu'on a vraiment la maturité pour partir, en fait? La première année en Turquie, ça a été difficile pour moi en termes de maturité, prendre en maturité. Pour beaucoup de choses, c'était une première fois dans ma vie, en fait. Notamment la gestion financière, c'est ma première fois de recevoir de l'argent à la fin du mois et de devoir le gérer. Par exemple, ça c'est l'enveloppe pour les courses, ça c'est l'enveloppe pour le déjeuner, ça c'est l'enveloppe pour autre chose. C'est difficile, l'absence d'éducation financière. En plus, moi, je suis partie jeune, j'avais 19 ans, donc il y avait un mélange de mélancolie, de manque de la famille, nouvelle culture. En fait, avant de partir, moi, j'associe étudier à l'étranger à la liberté, ce qui était un peu paradoxal. Tu arrives et tu te rends compte qu'en fait, c'est pas que la liberté qui importe, il y a d'autres choses. Certes, j'avais la liberté de faire ce que je veux parce que maman et papa sont pas là. Mais finalement, il y a d'autres choses à prendre en compte, c'était pas suffisant. Mon pays me manquait, la nourriture me manquait. Surtout pendant la période des fêtes, je me souviens mon premier Noël. En Turquie, moi je viens d'une famille chrétienne, Noël c'est super important et donc c'était difficile. Je me souviens de mon premier Noël, on a inventé un plat, on a mangé entre nous, puis après chacun est rentré chez soi dormir. Et je suis rentrée en chambre et j'ai pleuré toute la nuit. C'était dur et c'était un réel choc pour moi. En résumé, je garde des bons souvenirs de la Turquie, j'ai eu une très bonne expérience, je suis restée 6 ans et demi. J'ai eu des expériences plus négative, mais bien que j'insiste sur la première année. C'était difficile, je devais apprendre une langue. Un an pour apprendre une langue, ça te donne les bases, mais c'est pas forcément suffisant. Peut-être avec les bases, tu sais dire comment tu vas, je vais bien. Moi, je suis allée en Turquie pour faire des études d'infirmière, donc c'était pas facile avec une année pour avoir des bases d'une langue qui est complètement différente de la tienne. Le turc et le portugais, ils n'ont aucun lien. Et donc, je sors de ces cours basiques pour après arriver sur l'année d'études d'infirmière pour un langage turc qui est vraiment plus académique. Avec le temps, les discussions, les relations, les amitiés, j'ai pu vraiment pratiquer, que ce soit au dortoir ou ailleurs, à l'école bien sûr, donc ça finit par passer. Une des expériences les plus négatives, je dirais, bon, en premier lieu, moi je parle pas de racisme, mais je parle d'ignorance. Les Turcs étaient ignorants. Parce que l'année où je suis partie, il n'y avait pas tant de Noirs là-bas. Donc ils posaient des questions bêtes, je dirais. Pas agréables du tout sur l'Afrique. Genre, est-ce que vous avez du thé? Est-ce que vous avez du beurre en Afrique? Et tout ce que tu fais, ils vont comparer avec l'Afrique. Ça devenait gênant, inconfortable. Par exemple, t'es dans la rue, t'as un enfant qui vient, il va venir te toucher la main. Puis il va dire, ah, je pensais que t'es du maquillage. Pourquoi toi, t'as cette couleur de peau? Puis partout où tu vas, les gens qui te regardent, qui te fixent, tellement de gens qui te regardent qu'à la fin, en fait, ça joue un peu sur ta vie sociale. Du coup, t'es tenté de rester dans ton coin parce que partout où tu vas, t'auras tellement de regards fixés sur toi parce que toi, t'es différent par ta couleur de peau. Du coup, ce que je faisais, je leur demandais, mais est-ce que vous connaissez pas Beyoncé et Jay-Z? Parce que Beyoncé, elle est noire, Jay-Z, elle est noire, hein. Et ils sont là, ah, ouais, si, on connaît Beyoncé, on connaît Jay-Z, on les adore. Et on les voit qu'à la télé, en fait, on les a jamais vus en vrai. Une autre partie négative et plus sérieuse, c'est tout ce qui est en lien avec les agressions et le harcèlement sexuel. Je pense qu'il est plus difficile pour une femme africaine de vivre en Turquie qu'un homme africain. C'est comme si c'était marqué sur mon front que, en tant que femme, j'étais une femme facile. Je suis disponible pour du sexe, je m'excuse, mais c'est l'impression que j'ai eue. Pendant beaucoup de temps, quand on allait en boîte, c'est pas que les femmes noires, hein, les femmes étrangères tout court, t'es perçue comme étant plus facile, plus libre. Le sexe est plus facile, il y a zéro limite. J'ai eu plusieurs mauvaises expériences comme ça en boîte. On est là entre filles, on est en train de danser et danser. Et un gars vient nous aborder et forcer. Et pareil à l'université. Le gars s'est assis à côté de moi. Il a commencé à faire des signes à son copain que t'inquiète, ce soir, je vais gérer, je vais serrer, quoi. J'ai vécu beaucoup de situations pesantes comme ça, inconfortables. Et ça me rendait vraiment très triste. Et j'avais l'impression qu'à chaque fois, je devais constamment prouver que j'étais une femme sérieuse. Je suis pas une femme facile, c'est pas tu parles juste avec moi, je suis pas une femme facile quoi. C'était épuisant parce que je devais aussi faire attention à mes habits, même si je voulais porter une robe ou une jupe. je devais faire attention. Si elle avait l'air un peu sexy, je me disais, ah, ils vont penser que je suis dispo et que je suis disponible à tel prix, quoi. J'ai même eu l'expérience dans le métro, je passais le tourniquet et un gars m'a dit, madame, c'est combien ? Je me suis sentie tellement mal et c'était ma première année. Après, avec le temps, j'ai réussi à mieux gérer ces situations de manière un peu plus agressive, mais aussi j'étais plus à l'aise avec la langue, donc je pouvais vraiment répondre et me défendre également. Une de mes astuces pour pas écouter ces commentaires désobligeants sur ma couleur de peau, mes origines ou mon corps, je portais en fait mes écouteurs. Je gardais mes écouteurs à l'oreille. Si c'était à refaire, je dirais qu'en fait mon expérience en Turquie, elle fut une des expériences les plus importantes de ma vie. C'est une des meilleures expériences que j'ai vécues. La femme que je suis aujourd'hui, c'est grâce à la Turquie. Je suis partie, j'avais 19 ans. Je suis revenue à Bissau, j'avais 25 ans. C'est une période, c'était un processus où je suis passée de jeune fille à jeune femme, à femme même. Je suis passée par le meilleur, je suis passée par le pire. C'était un processus, en fait. Aujourd'hui, quand je repense à ce processus, je suis contente, en fait. Il y a eu des moments difficiles, mais le processus, quand j'y pense, j'apprécie de voir comment j'ai vécu ces processus, comment au début je gérais ces périodes difficiles, puis comment, par la suite, j'ai réussi à gérer ces moments difficiles. La maturité aussi que j'ai gagnée, par les expériences, mais aussi par les amitiés que j'ai développées. En termes d'amitié, j'ai rencontré tellement de gens. Certains sont devenus des gens très importants dans ma vie. Il y a eu beaucoup d'échanges. Vraiment beaucoup d'échanges, même entre Africains. J'ai eu des amis camerounaises, ivoiriennes, congolaises. Et je sais, je suis persuadée que si un jour je vais dans ces pays, je sais que j'ai une porte ouverte, quelqu'un qui m'attend. Même les Turcs, j'ai des amis aujourd'hui. Je sais que si je vais en Turquie, elles vont m'accueillir à bras ouverts. Et je pense que c'est ça le plus important. Peu importe où on va, l'objectif, c'est de donner le meilleur de soi-même, d'en tirer le meilleur. Vraiment tirer meilleure partie des avantages ou des aspects positifs du pays, comme des aspects négatifs, et apprendre à les gérer, en fait. E tenta lidar melhor com partes negativas
de que terra. E é isso, bisous. Bon, c'était nous. Espérons que vous avez apprécié ces témoignages de la série « Partir, mais à quel prix ?». N'hésitez pas à nous partager votre opinion, vos témoignages aussi, et réagir sur cet épisode. Merci, à bientôt.